Bonsoir. Deux manifestations politiques croisées ont dominé l'actualité le week-end dernier. La série de marches organisée par l'opposition dans certaines villes du pays pour réclamer le retrait de la machine à voter, mais également le meeting du FCC, le regroupement politique né des cendres de l'ancienne majorité présidentielle, pour présenter leur candidat à la présidentielle. Nous reviendrons sur ces doubles manifestations. Autre actualité, c'est la résolution adoptée mardi dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une forte mobilisation de la communauté internationale face à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout en félicitant le gouvernement pour les actions déjà réalisées jusqu'ici, le Conseil appelle aussi toutes les parties au conflit armé dans cette région à permettre la libre circulation du personnel humanitaire. Pour aborder ces actualités, nous recevons Pi-Gérard Elenga, journaliste indépendant. Pi-Gérard Elenga, bonsoir.
Oui, bonsoir Donna, bonsoir également à tous les auditeurs de la radio Capi, précisément ceux de l'édition Tribune de Presse, mais je rappelle que je suis plutôt journaliste politique.
Pius Romain Roland Ngoy, bonsoir.
Bonsoir Donna Madimba et bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre sur la radio Okapi, la radio qui informe presque toute la République démocratique du Congo.
Vous êtes journaliste indépendant.
Tout à fait.
Et enfin, Monulf Bosso, correspondant du groupe de presse Le Potentiel, Télé 7 à Kisangani, province de la Tchopo. Monulf Bosso, bonsoir.
Bonsoir et bien des bonnes choses à tout le monde et surtout aux auditeurs de la radio de la paix, Radio Capi.
À tous, bienvenue à votre émission. Et notre première halte sonore est la revue de presse présentée par Alain Hirung.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa sont revenus largement sur le meeting organisé par le Front commun pour le Congo FCC pour soutenir le processus électoral et présenter son candidat ainsi que la marche de l'opposition contre la machine à voter. Le stade Tata Raphaël s'est révélé trop petit pour accueillir tous les militants de la plateforme électorale dont le président Joseph Kabila est initiateur et autorité morale décrit Forum des As. Le Potentiel qui parle d'une démonstration de force du FCC au stade Tata Raphaël fait remarquer que cette plateforme a relevé le défi en réussissant l'assaut de ce stade. Tous les cadres du FCC sont aux anges et son candidat à la présidentielle, Ramazani Shadary, est assuré de rafler la mise en décembre prochain, juge le tabloïd. Pour le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mouilagna, la présence massive des militants au stade prouve à suffisance que le FCC va remporter les élections du 23 décembre prochain, rapporte Dépêche.cd. Au cours de ces meetings, indique casinfo.ca, Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du FCC à la présidentielle, a assuré que les élections auront lieu le 23 décembre prochain, après sa présentation officielle par le Premier ministre Bruno Tshibala. L'avenir, qui s'appuie sur les chiffres livrés par le commissariat provincial de la police, indique que la marche de l'opposition le 26 octobre a réuni 4 000 manifestants, alors que le meeting du FCC a réuni 180 000 militants à l'intérieur et aux alentours du stade. Les tabloïds quinois ont aussi commenté la marche organisée par l'opposition pour exiger le retrait de la machine à voter pour l'organisation des élections libres et transparentes. Le Phare rappelle qu'à l'appel de l'opposition, des dizaines de milliers de Congolaises et des Congolais sont descendus dans les rues de Kinshasa et de plusieurs villes du pays le vendredi 26 octobre 2018 pour protester contre l'usage de la machine à voter lors de la présidentielle et des législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018. À part l'absence très remarquable de Félix Tshisekedi et de l'UDPS, qui s'était désolidarisé de cette marche, rappelle la prospérité, les manifestants restants ont cependant porté très haut la voix de l'opposition au sein du firmament politique congolais. Terminons par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté mardi 30 octobre 2018 la résolution 2439 pour réclamer à toutes les parties au conflit armé dans la région du Nord Kivu de permettre le libre passage du personnel humanitaire, informe 7 sur 7.cd. Dans ce même registre, renseigne actualité.cd, 274 cas de personnes atteintes de la fièvre hémorragique à virus Ebola et 174 décès sont déjà enregistrés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays depuis le début de l'épidémie le 1er août, a indiqué le ministère de la Santé qui compte maîtriser l'épidémie d'ici fin novembre.
Pi-Gérard Elenga, journaliste politique, comme mise en condition, outre les deux sujets que nous comptons évoquer tout à l'heure, avez-vous une autre actualité que vous souhaiteriez partager? partager avec nous.
Merci beaucoup à Dona Madimba pour l'invitation. Je salue en passant Pius et puis Mounir Sebosso qui est à Kisangani. Mais aussi, je rappelle à nos auditeurs que Tribune de Presse, c'est une émission souveraine. Autant que la République démocratique du Congo elle est souveraine aussi. Je viens quand Dona m'invite parce que beaucoup d'auditeurs me réclamaient pourquoi vous ne passez pas. Et voilà, je suis là pour vous servir. Alors, au-delà de l'actualité telle que vous l'avez évoquée, je voulais quand même revenir autour de cette situation de ces jeunes gens, entre guillemets, Kuluna, qui ont été tués au quartier Kaouka. Nous sommes là dans la commune de Kalamu. Après un mois et demi, il faut signaler que ces corps sont vides. On vient maintenant de les libérer. On vient de les libérer comme ça. Et puis, il y a des deuils par-ci, par-là à Kaouka. Si vous faites un tour, vous allez voir ça. Et tout ce que nous déplorons dans cette situation, c'est que on a eu d'abord à peiner les cœurs humains, donc les familles de ces jeunes gens, et maintenant, un mois après, on ne sait où se trouvaient les cadavres, s'il faut appeler ça ainsi. On vient encore de les remettre, ça vient de créer encore une peine, vous ne pouvez pas imaginer, et il y a des pleurs par-ci, par-là. Deuxième chose, c'est le problème est lié à tous ces embouteillages, notamment tout ce qu'il y a comme tracasserie au niveau de la place Victoire. Moi, je me pose la question, ce qui se trouve au niveau de la Victoire, est-ce qu'une certaine police, je ne pense pas parce que les gens que je trouve là-bas, si je ne veux pas être méchant, ne sont autres qu'une catégorie de bandits hein, qui sont en train de déranger les paisibles citoyens à travers les téléphones, et arrêter des véhicules par-ci, par-là, des voitures, des chauffeurs. Cette situation n'est pas correcte et j'en appelle ici à la responsabilité. Du général Kasongo, le commandant de la ville police pour le compte de la ville de Kinshasa, de pouvoir mettre un peu de l'ordre dans cet endroit-là. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers la période électorale. Il faut éviter certaines inutilités au-delà du fait que les politiciens eux-mêmes ne sont pas déjà sérieux dans leurs discours. Alors, sur le plan de la population, il faut laisser un peu les gens calmes et éviter certaines choses. Vous avez suivi dernièrement l'accident qui a eu lieu là-bas, qui a failli créer vraiment des dégâts énormes. Et donc, ces deux situations-là, je pense que peuvent interpeller bien les autorités de la ville pour qu'on puisse remettre de l'ordre là-dessus. Voilà un peu quelques des sujets que je voulais aborder au-delà de l'actualité.
Très rapidement, puis Gérard Elenga, puisque vous évoquez deux faits qui concernent la commune de Kalamu, est-ce que vous avez tenté d'approcher l'autorité de cette circonscription et est-ce que vous savez si il y a des réponses ou des dispositions prises pour éviter ce genre de situation?
Bon, écoutez, merci pour la question. D'ailleurs, quand il y a eu d'abord tous ces jeunes gens qu'on avait tués, je pense que je suis passé sur la radio Okapi. On a appelé le général Kasongo pour lui poser la question. Il avait répondu au nom de la police de Kinshasa qu'il ne savait rien. Alors, il devait enquêter. On ne sait pas. L'enquête est arrivée à quel niveau? Quelles sont les conclusions ou les résultats de cette enquête? On n'en sait rien jusque-là. Vous savez, nos autorités sont parfois très fermées. Et lorsqu'il s'agit de situations qui concernent la population, pour laquelle d'ailleurs ces autorités sont appelées à travailler. Donc on est encore devant ce flou-là, et voilà, un pays qui se conduit comme ça. On vient, on tue de jeunes gens, on ne sait d'où ces gens étaient venus pour les tuer la nuit, les extraire de leur maison. Aujourd'hui, un mois après, on est en train d'enterrer les gens par-ci, par-là, et on n'a pas de réponse précise là-dessus, mais on est tout simplement en train de déplorer cette façon de faire qui est tout à fait... sur le plan de la conduite des choses publiques et de l'irresponsabilité, tout simplement.
Merci pour ces informations. Puis Gérard Elenga, Pius Romain Roland Ngoy, vous êtes journaliste indépendant. Quelle actualité avez-vous ou souhaitez-vous commenter à ce stade?
Ouais, je remercie d'abord au passage mon ami et frère Puis Gérard Elenga pour avoir brossé un peu la situation d'insécurité dans la ville de Kinshasa. Et moi, je reviens sur l'état de délabrement de nos routes. En tout cas, ça laisse à désirer. Il n'y a pas de route secondaire susceptible à désengorger la mobilité de véhicules.
C'est un fait que vous fustigez assez souvent.
Je ne cesserai jamais de le dire puisque le développement passe par la voie routière. S'il n'y a pas de réseau routier, il ne faut jamais espérer le développement puisque même si vous cherchez à importer des véhicules, les véhicules vont rouler ou sur nos toits des maisons, non, je pense que c'est impossible. Il y a beaucoup de routes qui sont impraticables. Je m'en vais citer quelques-unes. Il y a par exemple l'avenue Kabinda, qui part, qui prend presque 23 communes, jusque sur 24 partant de Barumbu, jusque sur 24 à Lingwala, vous prenez l'avenue Lombo Makiadi, ex-Bokassa. Pratiquement, je me pose la question, est-ce que Kimbuta passe au moins aux alentours de cette avenue?
André Kimbuta, c'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa.
Vous prenez l'avenue Itaga, qui est presque bouché entre l'avenue Bokassa et Kasai, qui n'est plus praticable, ce sont les marchés qui sont là-bas. Alors que l'autorité provinciale est à même d'ouvrir cette voie qui part de 24 jusqu'au niveau de Kabamba.
Un peu la même question que j'ai posée à Pierre-Gérard Elenga tout à l'heure. Vous êtes journaliste, donc ça fait partie de vos attributions. Est-ce que vous avez essayé de mener une enquête et interpeller les autorités compétentes sur ce délabrement très avancé des routes de Kinshasa?
Je suis allé plusieurs fois dans le cabinet du conseil politique du gouverneur, Toussaint Mika, qui me connaît personnellement. J'ai eu à échanger avec lui. J'ai l'impression que nous avons mal élu. Nous n'avons même pas une assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est pourquoi l'autre fois j'ai appelé la population. Elle a une arme fatale. Cette arme qui est susceptible de changer la classe politique.
Merci.
Je n'ai pas terminé. Vous avez l'avenue Tombalbaye,
difficile d'énumérer toutes les avenues.
Plateau, l'avenue Commerce, l'avenue du Marché, l'avenue Bas-Congo. En tout cas, c'est impossible. Et je reviens encore sur une autre actualité que j'ai, en tout cas, saluer le ministre de l'Industrie. Il faudrait prendre des mesures en ce qui concerne les sachets. Kinshasa est devenu invivable. Nous sommes à la période des pluies. Il suffit, avec la pluie qui vient de s'abattre, de sortir. Vous voyez les ouvrages d'assainissement. C'est plein de sachets, plein d'immondices. On se pose la question. Il faut fermer ces usines au profit de la population.
Monulf Bosso, correspondant du groupe de presse Le Potentiel et Télé 7 à Kinsangani, province de la Tchopo. Avez-vous en avant-goût une actualité que vous souhaitez nous partager?
Oui, effectivement, nous avons Kisangani, depuis un certain temps, est en prise, je dirais ça comme ça, en problème d'électricité. Vous savez que le barrage de la Tchopo a été construit depuis l'époque coloniale, et la capacité maximale de ce barrage était de 33 mégas, mais aujourd'hui, Tchopo n'en fournit que 11 mégas, allez-y comprendre. Et pourtant, le besoin de la population, par ces temps, est exprimé à 40 mégas. Donc, il faut dire aujourd'hui que seule la commune de Makiso bénéficie des services de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, alors que Makiso doit attendre jusqu'à le week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche, pour donner, on coupe du côté de Makiso pour donner maintenant à la périphérie, notamment dans les communes de Mangobo, Tchopo, Kabondo, Kisangani, l'électricité. C'est un sérieux problème aujourd'hui dans la ville. Vous savez que sans électricité, on ne peut pas espérer aux investissements étrangers, même pour des nationaux. Et là, ce qui est le point positif, c'est que le gouverneur de province en ce moment, d'ailleurs, il est en déplacement. C'est justement pour rencontrer les partenaires. Et là, il est très avancé avec le pourparler avec le Turc, les Indiens, notamment pour la il faut construire Tchopo 2. Et il y a aussi avec les Indiens, avec les photovoltaïques, et y compris aussi la centrale hybride. Donc c'est ça la première actualité ici. Bon, ce qui concerne la deuxième actualité, c'est la motion d'interpellation contre le DG de la régie financière provinciale. Il y aurait un détournement de 415 000 $ américains. Alors, d'abord, c'est une motion d'interpellation, c'est le communiqué de l'Assemblée provinciale, et que au cas où le monsieur se présenterait, parce qu'il est convoqué aujourd'hui le premier, s'il ne convainc pas l'Assemblée provinciale, l'auteur de la motion dit clairement qu'il pourra transformer sa motion d'interpellation à la motion de défiance. Mais revenons en ce qui concerne l'état de route comme à Kinshasa, donc la voirie aussi à Kisangani.
Très rapidement.
Vous voyez que ça pose problème parce que il y a pratiquement pas de route quand on va à Mangobo, à Tchopo et à Kabondo, ici on traverse la rive gauche là-bas à Lubunga, c'est vraiment regrettable. Donc il faut dire que l'état de la voirie, c'est un peu partout je dirais comme ça, dans certaines villes de la République démocratique du Congo, ne passe pas chaque à tout moment, il y a pluie
Merci Monulf Bonso. Entrons à présent dans notre programme de ce soir. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, a organisé un meeting à Kinshasa samedi dernier pour présenter à la population son candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Un événement désormais très commenté depuis le week-end. Le film de ce qu'a été ce meeting du FCC avec Richard Gignon Kamunga.
La mobilisation était forte. Les 40 000 places assises du stade Tata Raphaël n'ont pas suffi pour contenir les nombres importants de militants et sympathisants du Front commun pour le Congo. Même les alentours du stade étaient bourrés du monde. L'honneur a été donné au Premier ministre Bruno Tshibala de présenter officiellement le candidat du FCC aux militants de cette méga plateforme électorale.
Au nom du chef de l'État, je vais vous présenter notre candidat. Son nom, c'est Ramadan Chalari Emmanuel.
Ensuite est venu le tour de Ramadan Chalari Emmanuel de prendre la parole pour remercier le chef de l'État qu'il a désigné, puis la population quinoise.
Je remercie les quinoises et les quinois. Je vous remercie comme vous êtes venus nombreux. Merci parce que vous avez suivi l'appel du FCC. Le stade de Tata Raphaël est plein. Et il y a aussi des gens très nombreux à l'extérieur du stade.
Aucun incident n'a été signalé après le meeting. La police nationale congolaise a assuré la sécurité d'une façon professionnelle.
À noter que l'opposition, elle, avait organisé le jour d'avant, c'est-à-dire le vendredi, une série de marches dans certaines villes de la République démocratique du Congo pour réclamer le retrait de la machine à voter. Ces manifestations n'ont connu aucun incident dramatiquement déplorable, sauf l'annulation de la marche à Kisangani, par exemple. Puis Gérard Elenga, journaliste politique, on peut dire, voilà enfin la manifestation de la démocratie telle que vous les journalistes, mais aussi l'opinion de manière générale, avait toujours réclamé plein de manifestations, très serrées, mais zéro incident.
Oui, merci beaucoup Donald Madimba. Nous avons accepté la démocratie dans notre pays, et il faut toutefois noter que la démocratie a ses exigences. Alors, au-delà de ces exigences, il faut se plier, justement. La démocratie, c'est un jeu. Et dans ce jeu-là, il y a des règles et principes. Il est tout simplement question de les respecter et le jeu va très bien se passer comme se joue un match de football dans un terrain. Et nous avons assisté dans ces deux, si je peux appeler ces deux grands événements, qui du reste étaient à la limite des événements mesures. Des événements où on voulait un peu jauger selon que l'on est de l'opposition ou de la majorité. Et nous avons assisté à cette marche qui a été appelée par l'opposition congolaise réclamant le retrait de la machine à voter par rapport à ces processus électoraux. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que moi je n'entre pas dans cette guerre de chiffres, 4 000, 180 000, mais seulement j'ai observé cette beauté de la démocratie dont vous étiez justement de faire allusion. Ici à Kinshasa par exemple, moi j'étais présent dans cette marche comme observateur, j'ai observé la marche d'où elle est partie de la place échangère du 18e rue limitée jusqu'ici où elle était venue chuter à la place triomphale parce qu'avant l'itinéraire c'était que les manifestants devaient aller jusqu'au niveau du siège de la CENI, au niveau de la, du boulevard en ville, mais ça n'a pas été le cas parce que c'était un vendredi et que les jours étaient encore ouvrables, sinon ça allait perturber d'autres personnes qui n'ont pas eu à prendre part au cours de cette marche-là. On n'a déploré aucun incident. Il y a une collaboration entre la police et les manifestants. La manifestation a été bien encadrée par notre police. Il n'y a pas eu de provocation. Au-delà de ça aussi, il n'y a pas eu de slogan aussi hostile teinté d'un certain incivisme comme nous le voyons certains souvent ici. Donc moi, je félicite. Je dis bravo. Donc refuser la machine à voter, c'est aussi le droit d'une frange des Congolais qui pensent qu'ils pourraient aller à ces élections avec la machine à voter consacrerait selon eux une certaine tricherie électorale. Donc là, c'est bon. Également pour le FCC.
Allez-y.
Pour le FCC, le Front commun pour le Congo. J'étais également au stade de Tata Raphaël. Il est vrai que cette marche enfin, cette manifestation, ce meeting avait fait le plein. Il faut le dire parce que moi, j'ai vu le stade déjà à Tata Raphaël, qui n'a que 40 à 45 000 places assises, était plein à craquer. À l'extérieur, il y avait beaucoup de gens avenus au show, avenus du stade, toutes ces avenues-là, il y avait des gens. Et nous avons assisté. C'était la présentation officielle du candidat à Ramazani Shadary Emmanuel pour le compte de la majorité. Et tout s'est bien passé sans aussi observer un incident majeur. Donc voilà un peu. Moi, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas des consignes qui sont mal données, s'il n'y a pas des gens qui ne sont pas animés par une mauvaise foi, nous assisterons à ce jeu de la démocratie. Et maintenant que l'opposition a marché, le pouvoir ou la majorité a fait son meeting, tout s'est bien passé, et voilà. Maintenant, au-delà de ça, il y a toutes ces questions qui reviennent. De l'autre côté, c'était le soutien à la machine à voter, de l'autre côté, c'était le retrait de la machine à voter, mais écoutez, moi je pense qu'il faudrait être rationnel là-dessus.
Merci.
Comme l'autre, quand il faut être rationnel là-dessus, et savoir qu'est-ce que nous voulons exactement. Voulons-nous les élections ou voulons-nous la machine ou d'autres choses? Parce que je commence à comprendre que les politiciens congolais, quelque part, commencent à prendre des Congolais comme leurs moutons. Ils peuvent les conduire comme ils veulent, ils peuvent les diriger comme ils veulent, oubliant qu'au finish, c'est auprès de nous qu'ils sont en train de chercher tous ces mandats présidentiels, législatifs, et qu'est-ce que vous voulez.
Merci.
Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça.
Merci beaucoup, puis Gérard Elenga, puis Romain Roland Ngoy, vous êtes journaliste indépendant, l'opinion doit-elle désormais féliciter le pouvoir pour ces quelques signaux d'ouverture à l'expression libre?
Oui, l'autre fois j'avais dit que si à chaque fois l'opposition était dubitative ou on lui refusait parfois de marcher, d'organiser les manifestations, c'est plus qu'elle s'est débouchée par des casses et des morts d'hommes et des attaques contre les agents de l'ordre. Et cette fois-ci, elle a pris conscience, s'est dit que nous sommes en démocratie, et c'est ça même la beauté de la démocratie. Et nous sommes en démocratie, il faut respecter les règles, le principe établi par l'autorité. Vous revendiquez, puis Gérard vient de le dire, l'opposition en défaveur de la machine à impression de bulletins de vote, et de l'autre côté, l'FCC est favorable, et c'est ça le jeu de la démocratie. Elle est le seul arbitre, c'est la CENI.
Est-ce que le fait d'enregistrer quelques casses doit être le moteur pour interdire les manifestations? En Occident, où les manifestations sont très autorisées, les casses, il y en a presque toujours aussi. Mais les manifestations ne sont pas interdites.
Non, je n'ai jamais voulu copier ce qui s'est passé.
Mais c'est un exemple
Oui, c'est un exemple qui n'est pas bon, puisqu'à chaque fois, on dit que notre budget est modique, il faudrait arranger les routes, il faudrait arranger ceci, il faut moderniser ceci, et ils sont toujours les premiers à les casser. Alors, il ne faudrait pas demander une chose et le contraire à la fois. Je me dis, ces acteurs politiques de l'opposition savaient très bien qu'il y avait il y a l'organe d'appui à la démocratie qui est la CENI, qui tenait à ces nouveaux procédés dans l'amélioration du processus électoral. Et pourquoi sont-ils allés payer leur caution de qui s'élève à 100 000 dollars par candidat, alors qu'ils savaient qu'il y aura bel et bien la machine à impression du bulletin de vote.
Roland, quelles informations pouvez-vous nous donner déjà par rapport à ces allégations d'accusations de recours au moyen de l'État pour organiser le meeting du FCC?
En tout cas, je ne suis pas gestionnaire de l'État. Je n'ai aucune preuve.
Mais en tant que journaliste, avez-vous relevé quelques faits qui peuvent étayer ces accusations ou plutôt qui peuvent les laver?
Ce que je sais, c'est que chaque parti politique a une collecte de fonds de leurs militants. Je sais que chaque parti politique et ceux qui ont le poste politique, par exemple dans les gouvernements, et puisque c'est le poste qui appartient aux politiques, et il y a la rétrocession de 10% à chaque fois. Et ce sont des grands partis politiques. Et vous venez de le dire ici, le stade Tata Raphaël contient que 45 000 places, mais il y a eu plus d'hommes, il y a eu plus de partis politiques. Et je ne sais pas si ceux qui détiennent des preuves, qu'il y a eu des fonds qui sont sortis de la banque pour cette manifestation qui est tout à fait qui ne concerne pas l'État, qui est privé, qui ne concerne pas l'État, libre à eux de le présenter devant l'autorité judiciaire. En tout cas, moi, je n'ai pas de preuves. Ce que je sais, ils peuvent se cotiser. Il y a le moyen de cotisation. Ils peuvent se cotiser, louer les bus. Ils peuvent se cotiser et payer le stade, puisque l'opposition a organisé aussi des manifestations dans le stade. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition a eu le moyen de l'État pour être au stade de Tata Raphaël? Alors, bref, je me dis, il faut accepter les jeux démocratiques.
Merci.
Il faut aller aux élections. C'est pas le moment de chercher des poux sur la calvitie ou les calvities de qui que ce soit. Il faut se préparer à aller aux élections. Il nous reste qu'une cinquantaine de jours. Je pense que, comme je l'ai dit l'autre fois, la population détient une arme fatale. Et cette arme, il faut sanctionner et l'opposition et la majorité et renouveler la classe politique.
Merci Pius Romain Roland. Monulfe Mboso, correspondant du groupe de presse Le Potentiel et Télé 7 à Kisangani, province de la Tchopo. Avez-vous l'impression que s'il y a eu pas de problème dans la manifestation de l'opposition, c'est parce que l'opposition est devenue mature et qu'elle a compris comment il faut organiser les activités de manière pacifique. Et puis, de l'autre côté, avez-vous l'impression, même si Pius Romain Roland Goy parle à décharge, avez-vous l'impression qu'il y a eu usage ou recours au moyen de l'État du côté de l'ancienne majorité ou pas?
Moi, je pense que nous sommes pratiquement à 2000 kilomètres de là. Mais nous essayons de suivre ce qui s'est passé à Kinshasa, parce que vous savez, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc en tout cas la seconde près, donc on est informé de tout. Mais selon mes recherches, je dirais ceci, il faut dire que d'une part, l'opposition a compris que non, quand on manifeste, il faut pas scander des slogans hostiles au pouvoir en place, parce que là, la police ne va pas se laisser faire. De l'autre côté aussi, il y a le fait que les instructions ont été données à ces gens-là pour laisser l'opposition manifester. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense bien que ça contribue à l'avancement de la pratique démocratique dans notre pays. Mais quand on empêche à ce qu'il y ait marche en ce moment-là, vous savez que les gens disent que, bah, écoutez, nous ne sommes pas dans le régime d'autorisation, mais sinon de l'information, donc nous avons droit, pleinement droit de marcher, et c'est ça qui crée des problèmes. Et au finish, on perd les compatriotes comme ça, inutilement, bêtement, je dirais même. Mais quant à ce qui concerne les deux manifestations, il faut dire que bravo aux organisateurs, et bravo également à la police, parce qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de perte en vie humaine comme on en a eu par le passé. Mais dire que, écoutez, on avait donné, on avait soudoyé, on avait dit, moi je prends plutôt deux ministres au sein du même gouvernement. Là, je me réfère à Steve Mbikai qui, sur Top Congo, a dit, il ne faut pas se voiler la face. Il reconnaît avoir remis de l'argent aux membres de son parti, et pour les a poussés même à venir massivement, en leur donnant aussi le moyen qu'il faut, parce qu'ils trouvent que c'est insensé de les laisser partir comme ça, sous le soleil, alors qu'ils ont passé leur temps, c'est ça. Bon, mais de l'autre côté, il y a un autre membre du gouvernement, il faut le citer, c'est Félix Kabang. Moi, j'ai trouvé que dans ce qu'il a dit, il dit, mais écoutez, ils n'ont pas 10 000 francs à remettre à chaque manifestant. Donc c'est vraiment aberrant de dire qu'on a remis de l'argent à tous ces militants qui étaient là avec cet l'engouement. Selon lui, cela relève de la stratégie du FCC qui a aligné au moins 80% des candidats, disons, à la députation tant nationale que provinciale. Donc c'est dans ce moment-là qu'il dit qu'on a demandé à chaque candidat de pouvoir mobiliser sa base pour les amener au stade. Alors, entre les deux, qui dit vrai? Qui dit vrai d'autant plus que, juste à la fin des manifestations, nous avons vu des images sur les réseaux sociaux comme quoi on est en train de se disputer un peu d'argent par-ci par-là. Est-ce que c'était tout cela des militants de PT, donc le parti de Steve Mbikai, qui l'a reconnu, ou bien c'était autres militants et autres personnes? Mais sur les réseaux également, on nous dit que, mais écoutez, tous ceux qui sont les fonctionnaires de l'administration publique, les policiers étaient vêtus en civil, ce sont eux qui ont fait le plan. Mais nous ne sommes pas sur place pour vérifier toutes ces déclarations.
Merci Monulf Bosso. Nous reviendrons à vous pour notre deuxième sujet que nous abordons déjà. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi dernier une résolution appelant à une forte mobilisation de la communauté internationale face à l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. L'instance onusienne a également félicité l'action du gouvernement congolais face à cette épidémie. Le Conseil de sécurité a toutefois appelé toutes les parties au conflit armé à l'est de la RDC à permettre la libre circulation du personnel humanitaire. On écoute ici le compte-rendu de cette résolution.
Les membres du Conseil se disent profondément préoccupés par l'état global de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie d'Ebola, qui compromet gravement, selon eux, l'intervention d'urgence et facilite la progression du virus en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises ont déclaré une épidémie d'Ebola le 1er août dans la province du Nord Kivu. L'épidémie a également été constatée dans la province de l'Ituri, plus au nord. Entre le 4 mai et le 15 octobre 2018, 216 cas d'Ebola ont été signalés et au total 139 décès sont survenus. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité demande à tous les groupes armés, y compris les forces démocratiques alliées, de mettre immédiatement un terme aux hostilités. Il demande aussi à toutes les parties de permettre le libre passage, dans de bonnes conditions de sécurité et sans délai, de l'ensemble du personnel humanitaire et médical dans les zones touchées et de respecter et de protéger tous les civils et les travailleurs humanitaires et sanitaires. Le Conseil de sécurité souligne également dans sa résolution que les équipes d'action humanitaire et les hôpitaux et autres installations médicales qui apportent une assistance aux personnes qui sont dans le besoin doivent être respectées et protégées et ne doivent en aucun cas être pris pour cible.
Alors, puis Gérard Elenga, habituellement les résolutions ont plutôt un caractère politique. Comment comprendre ce type de résolution particulière qui semble concerner plutôt la situation d'Ebola à l'est du pays?
Non, je finis d'abord par ce que Monil venait de dire là par rapport au premier sujet, rapidement si vous le permettez.
Quelques secondes.
Je dis quand même que moi, je suis journaliste politique, je suis journaliste d'investigation, mais je rappelle en passant ici que je suis cadre à la RTMC. Cette histoire où on dit qu'on a obligé les agents et cadres de l'administration publique d'aller au SAD, c'est faux et archi faux. Mais vous êtes sans ignorer que le PPRD, qui est le parti présidentiel, à ce qu'on appelle les cellules de base installées à travers les différentes entreprises de la République. Et ce sont les membres faisant partie de ces cellules de base, qui sont directement les militants du PPRD, qui sont allés au stade comme tout autre citoyen. Il n'y a eu aucune obligation, ça je le confirme et je le dis, cette majorité ou cette FCC, ce sont eux qui gouvernent ce pays, ils ont des ministres, des mandataires, ils ont des émoluments, des salaires colossaux, ils ont des cotisations comme Puce l'avait dit. Ils ont leur argent, ils ont mobilisé leurs militants qu'ils ont amenés au stade. Qui ne sait pas que dans cette situation-là, même pendant les meetings d'ensemble, Katumbi avait envoyé de l'argent, nous avons vu les militants d'ensemble en train de se battre après les meetings. Donc arrêtons avec cette désorientation-là inutile pour se faire un peu de la place au niveau du public. Alors je reviens par rapport aux résolutions pour dire ceci. Les résolutions sont bonnes. Et là nous sommes devant un cas humanitaire qui demande quand même une certaine humanité de la part des acteurs qui sont en présence et surtout de la part de tous ces bandits et voyous qui sont en train de semer les troubles au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, ils doivent comprendre que les Nations Unies, dont nous faisons partie comme membres, félicitations au gouvernement, nous l'avons toujours dit, lorsque les institutions font le travail qu'il faut, le travail qui revient par rapport à leurs compétences, nous allons applaudir. Parce que je trouve cette confusion entre FCC et institution. Lorsque nous parlons institution, il faut oublier cette histoire de FCC qui est une organisation politique privée qui n'a rien à voir avec la gestion du pays. Donc bravo au gouvernement avec cette situation d'Ebola qui vraiment c'est une situation qu'il faut mettre beaucoup de sérieux parce que nous mourons déjà trop avec la faim, avec les salaires maudits, que nous mourons déjà avec tout ce qui se passe à l'Est et Beni et consort. Continuons encore à mourir avec une catastrophe naturelle comme cette maladie, cette épidémie-là, c'est regrettable. Et au-delà de cette résolution, moi je crois que c'est le gouvernement qui engage le pays, il doit tout faire pour mettre tous les moyens, liquider d'abord la situation des agents qui ont travaillé à l'Équateur en Banda et qui n'ont pas été payés, parce que ça je l'avais dit à Ilunga autrefois, ils continuent à réclamer leur argent, payer le personnel qui part travailler pour aider les compatriotes qui sont à ce niveau-là, les personnels humanitaires, à leur risque et péril aussi, parce que la maladie ne pardonne pas, pour qu'ils soient dans une situation qu'il faut. Et aux côtés, par rapport aux Nations Unies, qu'ils tiennent à cette résolution. Et les groupes armés qui s'hasarderaient à ne pas laisser libre cours au personnel humanitaire pour aller travailler par rapport à cette épidémie, qu'ils prennent des sanctions. On connaît qui dirige ces groupes armés, qui font n'importe quoi. Donc voilà un peu ce que nous, comment nous pouvons penser à cette situation, parce que il s'agit aussi des vues humaines, il s'agit aussi des vues de nos compatriotes qui déjà avec cette partie-là de la République, et si je n'étais pas quelqu'un qui prie beaucoup, je risquerais de dire que c'est une partie maudite de la République où tout le mal ne commence que par là.
Merci, Pius Romain Rolangoy. Je vous voyais me faire des gestes tout à l'heure. Je souhaiterais avoir d'abord votre réaction au thème abordé, la résolution sur Ebola. Ensuite, vous aurez un mot de la fin pour ajouter les idées qui vous restent encore.
En fait, au premier sujet, déjà, puis Gérard a vidé toute ma substance. Oui. Ce qu'il a dit, c'est ça, c'est qui est vrai. C'est ce qui était au fond de moi, je voulais le dire. Et puis Gérard, merci beaucoup. Vous avez dit vrai, les gens, c'est ça pérorer pour rien. Il y a les politiques qui sont ministres, sont mandataires, se cotisent par-ci, par-là. Et on sait que dans les partis politiques, c'est ça c'est qui se passe.
Donc, en un mot, il n'y a pas eu recours au trésor public.
Non. Vous savez qu'à Kinshasa, on essaie un peu d'extrapoler beaucoup de choses. Nous tous, nous sommes des travailleurs. Nous savons, nous avons des membres des familles. Il n'y a pas eu mot d'ordre pour faire partie les gens. De toutes les façons, ceux qui travaillent dans les administrations.
Ça, c'est le résultat de votre enquête ou c'est votre conviction profonde?
Non, écoute, ceux qui travaillent dans l'administration, ils sont quand même cadre de parti politique. Il y a des gens qui sont membres de parti politique. Quoi de plus normal d'aller répondre à leurs besoins? Même au sein de l'opposition, il y a des membres de l'opposition qui sont de l'administration. C'est pas que tous ceux qui sont à l'opposition sont des chômeurs. Non, il y a des travailleurs là-bas. Et vous avez par exemple l'ancien professeur qui a été à la francophonie, il est dans l'opposition.
Sans citer son nom,
et je ne veux pas en parler. Vous avez des députés de l'opposition, ils sont des travailleurs. Vous avez des députés provinciaux. Bref, j'ai dit, puis Gérard, merci, tu as vidé toute ma substance. Quant à la résolution, c'est pour la première fois l'ONU a fait quelque chose qui m'a plu. Pour la première fois, mais en partie. Parce que ça fait 20 ans, elle est à l'Est, là où elle demande encore aux groupes armés de laisser libre cours aux humanitaires.
Mais ça
fait 20 ans qu'il...
Est-ce que vous savez que Radio Okapi a plus de 15 ans et vous aimez beaucoup Radio Okapi? C'est le travail de l'ONU.
Mais tout à fait, j'aime la Radio Okapi, mais ce n'est pas dire que si la Radio Okapi est en République démocratique du Congo, la guerre doit encore continuer en République démocratique du Congo puisque c'est la radio des Nations Unies.
Non, juste vous faire remarquer que l'ONU a fait beaucoup de choses que vous aimez, dont Radio Okapi.
Oui, Radio Okapi, mais en partie, je n'ai jamais aimé sa politique. Parce que sa politique de nous museler. Cette fois-ci, avec la résolution 2439, en appelant toute l'humanité à être au chevet de la République démocratique du Congo. Mais oui, ça va. Vous avez l'ONU SIDA, n'est-ce pas? Il y a ONU SIDA qui existe. Pourquoi on ne peut pas faire ONU Ebola? Ce n'est plus une épidémie congolaise, c'est un fléau mondial. Et la République démocratique du Congo a fait des preuves, elle a des compétences médicales. Nous avons fini en Sierra Leone, je pense au Libéria, au Guinée, nous avons été là-bas, puis Gérard vient de le dire, on a maîtrisé à l'Équateur qu'il fallait payer ces gens. C'est ça, ces personnels-là, qu'il faut motiver avec de l'argent à les mettre fin là-bas. Puis Gérard a dit encore quelque chose de plus important, ces voyous-là, ces barbares, ils sont là-bas. Mais pourquoi on ne peut pas transférer l'Ebola, que ça attrape ces voyous-là qui écume la population, qui maltraite la population. Il faut que c'est... Et on sait, il a dit, on sait qui sont les maîtres qui aménagent tous ces groupes armés à l'est de la République. Et pourquoi les Nations Unies ne peuvent pas mettre fin à cette situation en République démocratique du Congo? Et elle a toutes les potentialités, toutes les capacités de mettre fin à la guerre en République démocratique du Congo. Et vous donnez une résolution en caractère politique, dire aux groupes armés, laissez les humanitaires. Donc, vous prenez fait cause que les groupes armés sont là. Puisqu'il y a une maladie, mettez-vous d'abord à côté, on soigne les malades, alors que les bien portants qui sont là-bas sont des imbéciles, des ignares qui doivent être matraqués et assassinés par les groupes armés. Moi, je me dis, l'ONU
est à même de mettre fin à la situation.
En conclusion, vous n'êtes pas satisfait de la résolution?
Non, je suis satisfait en partie.
En partie.
Et quand je dis en partie, c'est parce que l'ONU a tout le moyen de mettre fin à la guerre à l'Est.
Monif Bosso, quelle lecture faire de cette résolution sur Ebola?
Oui, permettez-moi avant de cette lecture-là par rapport à la résolution 2439 du Conseil de sécurité, revenir sur la guerre des chiffres en ce qui concerne les deux manifestations. Moi, au regard de tout ce que j'ai ici, je dois dire que, pour une fois, en tout cas, l'opposition n'a pas pu mobiliser comme on attendait d'elle, les militants. D'autant plus qu'il y a eu fissure au sein même de cette opposition par l'absence de l'IDPS, qui n'est pas un parti politique de moindre. Donc, c'est un grand parti et ça s'est fait sentir justement pendant cette manifestation. Alors, c'est tout à fait indiqué que on commence à chercher à gauche, à droite pour dire que, écoutez, si on a eu assez de monde du côté du FCC, c'est justement parce que on a recouru à certaines pratiques, notamment les personnels de l'administration publique, les policiers, on a réquisitionné les bus de l'État, des choses pareilles, on a soudoyé tous ces gens-là. C'est tout à fait indiqué. Mais revenir à la résolution 2439,
voilà.
Je dirais que c'est une bonne chose. Une bonne chose, une prise de conscience du danger qui guette non seulement les Congolais, mais aussi les pays voisins, parce que quand on est déjà au niveau du Grand Nord, allez-y comprendre que c'est à 10 pas de l'Ouganda, c'est à 10 pas du Rwanda, et mais prendre des pareilles résolutions, c'est bien, mais là, ce qui, à mon sens, je dirais que ça va poser un problème, parce que les ADF, est-ce que ces groupes armés-là va vraiment comprendre l'essence de cette résolution et écouter, d'autant plus que c'est un groupe qui n'est pas vraiment identifié comme tel, qui est le chef de ces ADF. On dit simplement que ce sont des rebelles ougandais, mais qui est leur chef et tout ça là. Est-ce qu'ils ont un commandement, ils ont une hiérarchisation dans leur groupe pour qu'ils écoutent effectivement et qu'on puisse prendre langue avec ces groupes-là? C'est ça le problème. Mais la crainte, c'est que si vous avez vu qu'à l'Équateur, ça a marché vite, pourquoi? Parce que c'était dans des zones assez isolées, il n'y a pas assez de circulation, tandis que dans le Grand Nord, il y a. C'est là où il y a une très forte concentration des populations, et la circulation, elle est vraiment à tout moment, que ce soit en Ituri, même jusqu'à arriver ici à la Tchopour, si on y prend garde, il y a risque que ça puisse s'étendre jusqu'à ici. Alors, je pense que cette résolution, ma lecture est que, c'est bien arrivé, mais il faut qu'on prenne des mesures aussi justement pour que cette résolution puisse porter l'espoir pour les populations qui sont victimes de ces maladies,
Monif,
et d'autres qui voient ces maladies arriver dans leur village, etc. Voilà, merci. C'est un peu ça que je peux dire.
Merci Monif Bosso, je considère ça comme votre conclusion. Très rapidement, Pius Romain Roland Goy, que peut-on retenir en 5 secondes?
Oui, en 5 secondes, je salue l'intervention de mon ami Monif Mbosso et puis Gérard, avec qui j'étais sur ce plateau. Et Monif a posé une question très très importante.
Mais c'est par là que vous allez terminer.
Oui, c'est par là que je vais terminer. Qui est le chef des ADF? Mais du vivant de Mouzé, Mouzé les avait déjà pointé du doigt. Il avait dit le chef des ADF, c'est Mousseveni. Le chef des FDLR, c'est Kagame.
Merci.
Et les Nations Unies savent très bien que dès que ces deux dirigeants-là seront toujours à l'est de ce pays, l'est de la République démocratique du Congo ne sera jamais en paix. Et il faudrait que les Nations Unies nous aident, nous Congolais. Ça fait 20 ans nos larmes coulent.
Vous l'avez
ça fait
dit.
20 ans nous avons enterré nos frères et sœurs, nos mamans, nos tantes, nos oncles, c'est assez.
Merci, Pius Romain Roland Goy, vous l'avez répété plusieurs fois. Puis Gérard Elenga, en conclusion, en 5 secondes, que peut-on retenir?
Oui, merci beaucoup. L'émission était bien avec Monilf et puis mon ami frère Pius. Mais je termine en disant ceci. Les Congolais doivent être vigilants, qu'ils arrêtent de se distraire avec les manœuvres aventurières des opposants et de ceux de la majorité attendant les élections le 23 décembre. Et là, j'adresse mon message à mes frères et sœurs de l'Équateur, à Bassan Koussoukou, soyez prêts pour les élections, qu'ils ne soient pas distraits le 23 décembre. Il y aura élection, nous aurons voté pour renouveler cette classe politique et chasser tous ces mégestionnaires qui ont géré ce pays. pas dans de bonnes conditions et avoir de nouvelles personnes sur qui ils peuvent compter pour le développement du Congo. Voilà mon mot de la fin.
De Alain pour produire la tribune de presse de ce soir. Alain Goy à la technique, Alain Irunga à la réalisation. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse pour ce soir, c'est terminé. Merci de votre attention. Au revoir.